Y voir clair, avec Nathalie Barrette et Bianca Lucier d'Alpé.
Salut Bianca!
Bonjour Nathalie!
Alors, je vais commencer raide aujourd'hui. Pas de préambule. Bianca, j'ai une question indiscrète pour toi. Est-ce que tu es maman?
Non, j'ai pas d'enfant.
Non, OK. Non. C'est la vie qui fait que t'as pas eu d'enfant.
Exact.
OK. Et puis, est-ce que tes parents, toi, ont une déficience visuelle?
Non, mes parents, les deux, voient très bien.
OK, OK. Parce que tu vois, aujourd'hui, on parle de parentalité. Alors, on souhaite mettre en lumière à la fois l'expérience d'une mère qui a une déficience visuelle, puis celle d'une fille qui a eu une maman. En fait, sa maman a une déficience visuelle. L'idée, c'est de souligner là, les défis, mais aussi les forces et les relations uniques qui émergent de cette situation-là. Alors, on a en studio avec nous, Bianca, deux femmes magnifiques. Alors, on reçoit aujourd'hui Marie-Christine Ricignolo, qui est une femme d'affaires, qui est conférencière, qui est animatrice, mais elle est aussi maman qui a une déficience visuelle. Allô, Marie-Christine?
Allô, allô!
Et puis, on a la superbe comédienne Virginie Rangé-Beauregard, qui est elle a une maman qui a une déficience visuelle depuis plusieurs années, hein, je crois.
Oui, exact.
OK. Alors, merci à vous deux d'être ici.
Merci.
Et toi, Bianca, ben, avec ta touche et avec ta spécialité, je le répète tout le temps, je ne suis pas une spécialiste de déficience visuelle, mais je suis très bien accompagnée. Donc, tu es spécialiste en réadaptation à déficience visuelle. Mm-hmm. Alors, toi, ta spécialité t'amène à rencontrer des familles puis des parents qui vivent situation parentalité.
Mm-hmm. Oui, ça arrive, oui.
OK, c'est bon. Alors, avant de commencer à parler avec nos deux invités, j'aimerais en fait vous faire entendre, Bianca et moi, on a jasé avec des parents, dont deux papas, Yann et Dani, qui ont les deux une déficience visuelle, puis qui nous racontent brièvement certains défis qu'ils vivent au quotidien, mais aussi vont nous raconter une petite anecdote. Alors, on les écoute, puis on revient en studio après ça pour jaser de parentalité avec Marie-Christine et Virginie.
Donc moi, les défis que j'ai en tant que père, c'est de reconnaître parfois s'il y a des problèmes... au niveau de sa santé, je sais pas, des trucs sur sa peau que je verrais moins bien, ou s'il y a des petits frissons de loin, ou faut vraiment que je me rapproche, là, puis je suis pas tout le temps collé sur mon bébé pour voir ça, là. Mais tout ce qui est les gestes de main, les gestes de bras, sourire, les yeux qui sourient, je les vois de loin, ça, pas de problème, là. C'est plus les petits détails inhabituels qui sont plus durs à voir.
Moi, les défis que j'ai en tant que père handicapé visuel, pour l'instant, c'est pas si pire que ça parce qu'il est assez jeune, mais il y en a quand même quelques-uns. Fait qu'un principal qui est un défi dans ma vie normale aussi, c'est de pas pouvoir conduire. Fait que ça m'affecte pas moi personnellement, plus ma conjointe. Fait que c'est elle qui va toujours le porter partout. On y va le plus souvent possible ensemble, mettons à l'épicerie, des choses comme ça. Mais des cours de natation que c'est moi qui va dans l'eau avec, j'aurais pu aller tout seul, mais je peux pas. La garderie, ben c'est toujours elle qui va le porter à la garderie. S'il est malade, ben faut qu'on s'arrange, un peu plus faire de télétravail parce qu'il faut aller porter à la garderie, fait que ça, c'est un peu moins le fun. Ouais, je dirais quelque chose de positif, c'est que je suis pas... C'est vraiment moins pire que je pensais. Je suis capable de voir tout ce qu'il fait, toutes ses souris, je vois pas assez mal pour le perdre de vue. Je me sens à l'aise dans les magasins à le suivre, puis à pas le perdre de vue quand il se promène, puis tout ça va bien. Puis jouer avec, ça va super bien, puis justement, ça va tellement bien qu'on en entend deuxième, fait qu'on a hâte de le rencontrer.
Ouais, ben au début, j'étais pas habitué, fait que j'ai eu une anecdote dont je me rappelle. Au début, quand j'étais pas habitué à changer les couches, ben j'avais tendance à me mettre le visage vraiment trop proche de son arrière-train. Puis à un moment donné, il a décidé de faire un petit caca, ça m'a presque touché au visage, ça passait à quelques cheveux de ma bouche.
J'ai une anecdote assez intéressante. Vu qu'on n'était pas certain que mon problème de vision, c'était transmissible ou pas, on suit un peu qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y avait peut-être 8-9 mois, puis ça, c'était clair qu'il était correct, parce qu'on était assis sur le sofa, on regardait par la porte patio, il me pointait quelque chose, j'étais comme « Non, il n'y a rien, j'étais allé voir de plus proche. Ah, il y a peut-être quelque chose, je suis pas sûr. » Finalement, j'ai forcé les yeux. « Ah, il y a un écureuil. » Ben oui, il avait raison, il l'a vu à l'autre bout, puis moi, il a fallu que je me force pour voir qu'il y avait quelque chose. Fait qu'il est correct.
Qui sont sympathiques. Merci à vous deux, les garçons. Alors, tout d'abord, Marie-Christine, peux-tu nous parler, quelle est ta déficience visuelle?
Oui, bien, moi, je suis non-voyante. Je vois plus de l'œil droit. c'est dû à un glaucome congénital, en fait. Mm-hmm. Là. J'ai perdu la vue à 30 ans, donc ça, là, j'ai seulement la perception lumineuse de l'œil gauche maintenant.
Ah, quand tu étais jeune, est-ce que tu voyais un petit peu ou tu étais malvoyante?
Oui. Ah non, je suis née, la maladie, elle a été détectée quand j'avais 4 mois. J'ai eu plusieurs chirurgies qui ont sauvé ma vue pendant toutes ces années-là. Donc, moi, j'ai eu mon permis de conduire.
Ah, oui,
j'ai travaillé comme serveuse pendant mes études universitaires. Jamais ma vie avait été un obstacle là, avant 30 ans.
OK. Aïe. OK, puis c'est, à 30 ans que finalement ta santé oculaire s'est détériorée parce que tu as subi une grève de cornée, c'est tout ça?
Ah oui, un paquet de chirurgies, là. Je les compte plus. Beaucoup de chirurgies, puis il y a eu beaucoup de complications, puis les hausses de pression, parce que le glaucome, c'est ça, c'est la pression dans le globe intraoculaire, puis à force d'avoir trop de pression, bien, c'est le nerf optique qui est compressé, puis à un moment donné, il n'y a plus de connexion qui se fait.
C'est quelques mois ou c'est arrivé d'un coup? Ou...
Sur 18 mois.
Ouais, hein? Il faut savoir aussi que le glaucome congénital, écoute, c'est une maladie oculaire qui affecte environ un enfant sur 10 000. Ton enfant a aussi une déficience visuelle.
Ouais, c'est très rare. Oui, Liam aussi, malheureusement, est né avec cette maladie. Pour l'instant, il voit seulement d'un œil, mais c'est ça. Pour l'instant, il fonctionne très bien. Puis heureusement, il peut profiter de sa vision.
Génial. Virginie,
oui.
Toi, tu es voyante.
Moi, je suis voyante.
Mais c'est ta maman qui a une déficience visuelle.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a comme déficience visuelle?
Donc, ma mère a la rétinite pigmentaire. Donc, mm-hmm. c'est un handicap. En fait, elle a perdu graduellement la vue au courant de sa vie. Donc, quand elle était enfant et jeune femme, elle voyait bien. Au début de sa vingtaine, si je me souviens bien, elle a commencé à percevoir des changements au niveau de son adaptation, l'adaptation que de l'œil lorsque on est dans le noir,
mm-hmm.
Ainsi que la périphérie. Ce sont dans le fond les deux principaux symptômes. Là.
Mm-hmm.
Donc, elle s'est mise à percevoir des changements. Puis, c'est ça, elle est allée faire des tests et tout. Puis, elle a compris qu'elle avait ce handicap-là. Ses trois frères ont la même maladie. Puis c'est arrivé donc graduellement. Fait que moi, quand j'étais jeune, ma mère voyait mm-hmm. Avec une certaine restriction. Donc, elle ne conduisait pas parce qu'évidemment, la périphérie en voiture, c'est ultra important. Il y avait comme quelque chose qu'elle ne faisait pas, mais elle était très autonome. Elle faisait à manger, elle m'amenait mes cours de natation, justement. On vient d'entendre le témoignage. Mais tu sais, dans le sens qu'on marchait dans la rue ensemble, elle me faisait traverser. Mm-hmm. Tu sais, je n'étais pas en danger comme enfant. Et elle non plus n'était pas en danger comme femme. Sauf que c'est ça, au courant de sa vie, il y a des périodes où c'était un petit peu plus stable. Il y a des périodes où, pendant quelques années consécutives, ça a beaucoup diminué d'un coup. Fait que c'est instable. Puis c'est ça, graduellement, en fait, elle est devenue complètement aveugle. Là, ça fait quelques années qu'elle ne voit plus du tout.
Tu disais dans la soixantaine, à peu près.
Ouais,
elle est devenue complètement
près.
Aveugle. Est-ce que tu vivais à ce moment-là chez tes parents quand c'est arrivé?
Non, mais tu sais, même mes derniers moments de cohabitation avec eux, sa vue, c'était quand même beaucoup dégradée. Là, tu sais, il en restait encore, comme on dit.
Mm-hmm.
Mais j'ai quand même pu observer beaucoup de changements au quotidien. Puis non, quand c'est arrivé, quand elle est arrivée à la cécité complète, je n'habitais plus avec elle, mais on se voit quand même assez souvent. Donc, j'observe.
Sens-tu qu'en tant que maman, elle avait des défis, même si elle avait un choc dans la famille?
Bien, c'est étrange parce que le fait que ça a été aussi graduel, c'est un choc tout aussi important, d'après moi, mais différent que quelqu'un qui perdrait la vue plus soudainement. Je pense que dans les deux cas, c'est de l'adaptation, mais je dis pas qu'un est plus intéressant que l'autre, là, évidemment. Mais dans son cas, elle, comme ça a été une perte graduel, c'est comme si nous, il a fallu qu'on s'adapte. En fait, tout le monde était en constante adaptation tout le temps. Donc, c'est difficile parce que des fois, on fait... Tu sais, le cerveau veut placer des paramètres. Fait qu'on se dit, OK, ben là, elle ne voit plus telle affaire, mais là, elle voit ça. Fait que ça, c'est correct. Fait que là, mm-hmm. on essaie de s'adapter autour de ça. Puis là, finalement, l'année d'après, là, ces paramètres-là, ils ne fonctionnent plus soudainement. C'est comme
C'est toujours en
toujours train, en train de chercher finalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on s'adapte, qu'est-ce que, des trucs pour s'aider à mieux communiquer. C'est ça. Ce qui fonctionnait à un certain moment fonctionne plus un peu plus tard. Mmh. Fait que voilà.
Est-ce que tu as l'impression que tu arrivais à imaginer comment ta mère voit, comment elle voyait? Est-ce que tu pouvais avoir une idée ou c'était difficile à imaginer?
Bien, j'imagine que on le saura jamais vraiment. Je pense qu'il n'y a rien comme le vivre, évidemment. Mais c'est sûr que, comme je disais, que c'est surtout la périphérie. C'est ça. C'est la périphérie qui part en premier. Fait que c'est comme si toute la vision se dégradait sur le côté jusqu'à devenir comme une vision un peu comme dans un tunnel. Puis mm-hmm. ce tunnel-là va se rétrécir au fil des années jusqu'à devenir comme un tuyau de plus en plus petit, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien, finalement. Et cela dit, ce qui se passe dans le fameux tunnel, cette vision-là n'est elle-même pas si claire, je pense. Mm-hmm, okay. Je pense que c'est pas une délimitation ronde, parfaite. T'sais, c'est comme grignoter là, un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de zones. C'est ça.
Marie-Christine, toi, les grands défis que tu rencontres en tant que maman, c'est quoi?
Les grands défis... Ouais. Ben je veux dire, c'est parce que moi, ça fait 6 ans là, que j'ai perdu la vue. Je me suis comme un peu habituée. Ben en fait, c'est en ce moment, c'est plus les travaux scolaires. Faire les devoirs, c'est compliqué pour moi. Mm-hmm. Puis c'est sûr que aller le conduire à l'école aussi, c'est compliqué parce que son école est quand même située assez loin de chez moi. Donc ça, c'est moins évident, donc c'est un défi. Liam, il y a des gouttes aussi à mettre dans ses yeux, donc le matin, j'ai besoin d'aide pour lui donner ses médicaments. Mais sinon, on fonctionne relativement bien. Justement, on s'est adapté, puis on a des moyens. Puis
toi, quand tu as perdu la vision, ton fils, il avait quel âge à ce moment-là?
2 ans.
2 ans, ouais. OK.
Donc, c'est sûr, au début, c'est le bout le plus difficile, parce que... C'était tellement de choses à apprendre, comme Bianca, t'es bien placée pour comprendre. On a tellement besoin d'aide. Tout est à reconstruire, là. C'est
réapprendre.
Une adaptation totale. Puis en même temps, moi, j'avais le défi d'être mère aussi, en même temps que je devais m'habituer à cette nouvelle vie-là. Mais
est-ce que tu as eu le deuil de te dire, ben oui, je vais grandir, il va grandir à mes côtés, mais je ne le verrai pas. Est-ce que tu as eu ce deuil-là à faire? C'est le deuil de ne pas le voir à son bal des finissants, voir. Tu n'as pas eu ce deuil-là à faire?
Ben c'est sûr que des fois, c'est sûr qu'il y a de la tristesse dans chaque moment important, mais en même temps, tu sais, le fait d'être à ses côtés, je veux dire, ça a tellement de valeur que...
C'est un privilège.
Ben oui, tellement. Ouais. Je me souviens avoir comme ressenti une tristesse la première fois qu'il est entré dans l'autobus scolaire, là, quand il rentre à la maternelle. Je sais, mon Dieu, j'aurais pas cette image-là, tu sais. Mon père était à côté de moi, puis il me décrivait la scène. Oh. Là, j'ai des larmes qui coulaient.
Oui, je comprends.
Il dit, il te fait tata.
Oh, c'est beau, ça. Ouais.
Oui.
C'est beau. Mais Bianca, on en a souvent parlé... tu sais, des fois, tu me dis, parce que quand on jase ensemble, Bianca, des fois, elle me dit, je peux pas voir si tu souris. Des fois, tu peux pas... En fait, t'as pas conscience de le contact visuel. Mm-hmm. Le contact visuel. Fait que donc, en tant que maman avec enfant, tu l'as pas, le contact visuel. Tu peux pas voir, Bianca, la peine sur le visage de ton enfant. Tu reconnais pas ça. S'il te le dit pas, tu le sais pas.
Moi,
Bianca. Ouais, mais Bianca.
Ben moi, j'ai pas d'enfant.
Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est des gens que tu rencontres, qu'est-ce que t'entends?
Ben, c'est drôle parce que, comment je peux dire, pour moi, j'ai une déficience visuelle de naissance, contrairement à Marie-Christine. Donc, pour moi, je le vois pas comme une perte parce que j'ai l'impression que je le sens. Mm-hmm. Puis là, comment je le sens, c'est presque métaphysique, j'ai aucune idée comment je le sens, mais pour moi, les émotions, je les perçois comme des vagues. Fait quand quelqu'un est triste, c'est comme je vais percevoir la tristesse. Si quelqu'un est anxieux, si quelqu'un est pressé, je le sens, mais je le sens pas sur le visage. Fait que, je veux dire, pour moi, c'est juste que je perçois l'émotion d'une autre façon. Fait que c'est pas comme...
L'énergie presque.
Ouais. Exact. Je pourrais pas dire, souvent, c'est que je la sens. Fait que je pense, avec l'expérience, avant, je pensais que c'était mes émotions, mais avec l'expérience, maintenant, je comprends que c'est l'émotion des autres personnes, tu sais.
Fait que j'ai presque un super pouvoir, en fait.
Wow.
Oh, non! Je pense que ça doit être équivalent à quelqu'un qui voit avec ses yeux. J'ai l'impression que c'est juste peut-être que j'ai aucune idée comment je le fais. Peut-être que j'écoute la voix puis que je le perçois comme ça. Je le sais pas. Est-ce que toi, Marie-Christine, ça fait ça pour toi aussi? Les émotions des autres ou des enfants?
Oui, mais c'est sûr que je suis plus, plus sensible aux voix des gens. Mm-hmm. Puis maintenant que je suis plus stimulée par ma vision, j'ai l'impression que si quelqu'un me partage ses peines, je suis 100% avec la personne.
On les perçoit quand même, les émotions.
Mais Liam est jeune encore. Donc, est-ce que tu le sens quand tu as de la peine? Est-ce que tu le vois?
Ben oui, c'est mon enfant. Je veux dire, je l'ai tricoté. Il cache quelque chose, je le sais. Il est comme, comment tu sais que j'ai caché tes clés? Je te connais. Des fois, je vais lui dire, j'aime pas le chandail que tu portes. Tu changes ton chandail. Comment tu sais? C'est moi qui plie ton linge, c'est pas mal d'affaires, tu peux pas m'en passer. Il comprend pas, tu sais. T'as pas fini ton assiette, comment tu sais?
Il s'essaye.
Oui, il sait, oui.
Il s'essaye. Puis toi, par rapport à ta mère, Virginie, est-ce que ta mère est capable de détecter comment tu te sens quand tu la vois ou tu lui parles beaucoup? Avez-vous une grande et belle communication?
Oui, on se parle beaucoup, mais ma mère pose des questions aussi. Mm-hmm. Comme je disais tantôt, ça aussi, ça fait partie quand même de l'adaptation. J'ai l'impression, autour de la table, dans ma famille, ça a toujours été comme le souper, ça a toujours été un moment important parce qu'on reste longtemps. De pas... Il y a des choses quand même qu'elle perçoit pas, parfois des blagues ou, tu sais, mettons, de l'ironie, mm-hmm, mettons, mm-hmm. Ça va être un petit peu... À moins que ce soit vraiment évident puis que je dise une chose totalement l'inverse de... Tu sais, qui va à l'inverse de mes valeurs ou de... Bon, bien sûr, mais certaines pointes d'humour, là, ouais. Des fois qu'elle perçoit pas sur le coup. Ou, tu sais, des fois, c'est ça. Tu sais, là, ma sœur a des enfants, donc souvent, on soupe avec eux. Puis là, les enfants ont moins cette patience-là de laisser à chacun son tour le temps de parler. Ma mère a de la difficulté quand il y a deux conversations à la fois. Mm-hmm. C'est comme si ça se mélange, puis elle a de la difficulté à comprendre ce qui... est-ce que tu veux intervenir?
Non.
Elle a de la difficulté des fois à comprendre ce qui appartient à quoi. Mm-hmm. Puis avec les enfants, des fois, c'est plus compliqué. Ça rajoute du bruit ambiant et tout. Puis c'est ça, des fois, il va se passer une chose. Justement, un des enfants va faire une petite bête drôle. Puis là, on rit. Puis là, ma mère nous demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on est en train de rire. T'sais, je pense qu'elle, ça lui donne l'impression de rater des affaires. Puis on les lui explique, évidemment. Mais c'est sûr que ça fait sortir du moment présent, puis mm-hmm. du spontané et tout. Puis ça, c'est quand même quelque chose avec lequel je sens que des fois, elle a de la difficulté. T'sais, je pense que ça la rend triste des fois, je pense, de ne pas pouvoir être spontanément dans la discussion, puis de ne pas capter tout ce qui se passe, chose qu'elle faisait évidemment avant.
Ta maman, c'est une artiste.
Elle étudie au conservatoire.
Ouais, elle étudie pour être comédienne. Elle a été comédienne, en fait, au début de sa vie. Puis c'est en jouant au théâtre, entre autres, qu'elle a découvert, en fait, ce qui se passait parce qu'elle était sur scène, puis elle terminait une scène, puis là, les lumières se fermaient, les spots se ferment. Donc, c'est un.
Adaptation.
Il y a un noir qui se produit, puis elle devait, pendant ce noir-là, se dirigeait en coulisses, puis à un certain moment, elle était comme, c'est ça, son œil s'adaptait plus. Puis elle était plus capable de se rendre elle-même en coulisses. Il fallait que quelqu'un vienne la chercher, ça aurait pu être dangereux qu'elle tombe en bas de la scène, évidemment. Fait que c'est, entre autres, de cette façon-là qu'elle s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose avec ses yeux.
Et toi, tantôt, Marie-Christine, tu parlais du chandail que tu pliais, de Liam et tout ça. Au quotidien, ça ressemble à quoi, ta vie? Ta journée, mettons, t'as une journée type de Marie-Christine, ça ressemble à quoi? Parce que tous les petits trucs aussi que tu utilises pour t'aider dans ton quotidien.
À quoi ça ressemble? Mais c'est très animé, mon quotidien, avec un jeune enfant. Puis c'est... Comment dire? C'est comme... Je fais mon possible, mon fils fait son possible, puis...
T'as un amoureux qui t'aide?
Oui, on n'habite pas ensemble, par contre, mais j'ai beaucoup d'aide, tu sais. J'ai ma famille qui est proche de chez moi, j'ai des voisins aussi extraordinaires. J'ai des amis qui habitent pas loin, le père de Liam, il habite à deux coins de rue de chez moi. Fait que ça, c'est très aidant, parce que je suis consciente, justement, des défis, puis aussi de l'énergie que ça demande. Puis heureusement, on vit dans une époque où la technologie est tellement aidante pour des personnes qui vivent avec un handicap comme le mien. Je veux dire, je peux faire FaceTime n'importe quand ça va pas.
Ouais.
Je me sens en sécurité, je sens que on s'est construit une vie qui fonctionne bien. Mm-hmm. Ben, il n'y a jamais rien qui est parfait, mais quand même, tu sais, mon appartement est tout adapté. Je fais... Je suis pas là à cuisiner des ossobuco à chaque soir. C'est plus simple.
Mais tu sais que Marie-Christine, il y a
de ça. Puis ça aussi, je suis consciente de ça. Ouais. Fait que, juste heureuse de pouvoir...
Ça ressemble à quoi, Marie-Christine? Tu dis que ton appartement est adapté. Je pense que c'est pas tout le monde, mettons, qui sait de quel type d'objet ou d'aide on parle.
Mais comme un exemple. J'ai comme un assistant à Google dans ma cuisine. Okay. Ça m'aide. J'ai la télévision qui a l'assistance vocale aussi pour ma télévision. Quand je dis qu'elle est adaptée... C'est pas mal ça.
Il y a des commandes vocales.
Oui, exactement. Puis dans ma cuisine aussi, j'ai comme quelques objets qui sont adaptés. Mais ça, les téléphones cellulaires, ils sont tellement aidants. Là. Maintenant, si je cherche ma canne de tomates, je fais juste comme ouvrir ma caméra puis ça me lit ce qui est dessus. Fait que ça va vite. Là. Mais sinon, comme ma laveuse, j'ai des points tactiles, mon lave-vaisselle. Tu sais, je peux pas partir une brassée chez mon chum, mais chez nous, ça va. Tu sais.
Moi, je vais faire une petite plug pour une chose qui me concerne pas, mais une application qui s'appelle Be My Eyes, que j'ai sur mon téléphone. Tu peux t'inscrire soit en tant que non-voyant ou en tant que bénévole. Puis c'est partout dans le monde. Puis quand tu t'inscris, tu entres ta langue de communication ou tes langues de communication. Puis les personnes qui en ont besoin peuvent faire appel à tout moment à un bénévole dans le monde qui parle. Fait que moi, des fois, je reçois un appel de Be My Eyes. Je réponds, puis là, je vois dans le fond la caméra de la personne. L'autre fois, il y a un monsieur, c'est quand t'as parlé de ta canne de tomate que ça m'a fait penser à ça. Un monsieur qui avait comme des pots dans son armoire, puis était comme, tu sais... Quand tu fais tomber du miel.
Ah, c'est incroyable, je connaissais pas ça.
Ouais, ou une fille à Manny qui m'avait demandé, il y avait comme deux chandails pareils sur son lit, puis elle me demandait si c'était celui de gauche ou de droite qui était le bleu, par exemple. Fait que...
Est-ce que t'es bénévole?
Oui.
C'est donc bien le fun.
Oui. C'est extraordinaire. C'est très gratifiant. Ça arrive pas souvent. Je vous prie, il faut s'armer de patience, hein, parce que c'est rare, les appels, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles.
Oui, ça doit.
C'est rare que c'est toi qui réponds, puis des fois, là, faut être en train de regarder son téléphone au moment où l'appel pop, puis peser dessus. Il faut être super rapide. Des fois, je pèse dessus, puis c'est comme, désolé, un autre bénévole a répondu. Je suis déçue.
C'est tellement populaire. Oui. Tu te sers-tu de ça, toi, Marie-Christine?
Non, mais je connais ça. Je connais ça. C'est peut-être, peut-être un jour, j'oserais l'utiliser, mais peut-être, justement, je préfère appeler quelqu'un que je connais de mon entourage, parce que
on
est tellement dépendant tout le temps de l'aide des gens, tu sais. Fait que... Ouais. Peut-être un jour, j'oserais...
Mais c'est ça, si t'es comme, je veux pas... Tu sais, mettons, il est tard, puis t'es comme, je veux pas comme déranger, je sais pas, tu sais.
Ouais, non, ça, je dérange n'importe qui.
Je dérange tout le temps.
Quand tu sais pas quoi porter, tu peux appeler...
Oui, c'est ça. Oui, mais c'est dingue pour les gens qui sont...
Mais qui sont seuls, en fait, qui ont moins d'entourage que, tu sais, t'es chanceuse de cet entourage-là, mais...
Ben oui.
Est-ce que mon pain est moisi? Tu sais, n'importe quelle question.
Oui.
Puis maintenant, il y a une version Be My AI avec l'intelligence artificielle où là, on pose la question, mais à l'intelligence artificielle.
Oh, donc,
c'est une nouvelle fois dans les mises à jour.
Mais
c'est dans Be My Eyes, il y a un onglet en dessous où c'est Be My AI au lieu de Be My Eyes. Mais là, on pose la question, on peut prendre un menu de restaurant en photo puis dire combien coûte le verre de vin rouge, puis là, il va nous dire la réponse, fait qu'il va traiter le texte et le contexte, dans le fond.
Wow.
Oui, oui.
Mais toi, t'as pas grandi avec toute cette aide-là, Bianca?
Ben, je suis trop vieille pour ça, malheureusement.
Ben, là, trop vieille, franchement.
Franchement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'étais jeune, t'avais pas toute cette aide-là.
Puis, tu sais, je sais pas comment Marie-Christine ou Virginie, même ta mère, mais moi, je trouve que la vie, en tant que personne qui a une déficience visuelle, elle est plus simple aujourd'hui. Mm-hmm. Mon téléphone intelligent, pour moi, il a changé ma vie. C'est quasiment comme si je vois mieux, parce que je peux faire tellement de choses avec que s'il fallait que je m'en prive, là, je trouverais ça difficile, tandis qu'avant, j'en avais même pas, tu sais. Juste, moi, j'utilise beaucoup la loupe du téléphone intelligent pour regarder quelque chose. Donc, je pensais tantôt, Virginie, quand tu disais, tu sais, rater les expressions des fois ou quand quelqu'un, je sais pas, montre un livre ou montre des photos, mais moi, je vois quand je grossis, fait que je prends mon téléphone puis je regarde en gros ce qui se passe. Avant, je ratais beaucoup de choses auxquelles maintenant je peux avoir accès. Fait que...
Je comprends. Je pense que ma mère a 70 ans. Fait que je pense que toi, tu viens de dire que tu étais trop vieille.
Imagine!
Tu es plus jeune qu'elle. Mais je pense qu'il y a aussi ça. J'ai l'impression que là, il y aura peut-être éventuellement une ouverture à ça. Mais pendant longtemps, c'est comme si... C'est une génération qui, de toute façon, techno-wise est un petit peu moins, je sais pas, ouvert, habile, intéressé, tout simplement. Puis, fait que je pense qu'elle, il y a beaucoup de ce type de réflexe. C'est comme, Marie-Christine, tu parlais de ton téléphone qui fait tellement de choses pour toi puis qui lit des choses
beaucoup,
pour nous. C'est ça, tu sais, c'est comme si je pense pas que ma mère a eu ce réflexe-là encore de faire appel à ce type de technologie-là, mais suite à ce balado, je saurais bien l'encourager.
Ouais. Est-ce qu'elle habite seule, ta mère?
Non, elle est avec mon père. Ouais. Toujours. Ouais.
Puis lui, il voit.
Oui, mon père est voyant.
Il fait le téléphone.
Ouais, c'est ça. Il y a quand même des moments où ils sont pas dans la même pièce ou pas dans mon père a ses activités, il travaille, il va jouer au tennis.
Tu as abordé brièvement tantôt le fait que les frères de ta mère ont aussi la même. Puis tu as abordé brièvement aussi le fait que vous vous êtes questionnée. Mm-hmm. Parce que vous avez pas mal d'enfants dans la famille. Est-ce que chaque enfant doit passer des tests?
Il n'y a pas pas mal d'enfants dans la famille. Ma sœur et moi, nous sommes les deux seuls enfants. Ouais, mes oncles n'ont pas eu d'enfants. Okay. Donc, ma sœur et moi, on est les deux seuls. Puis là, elle a des enfants, puis pas moi. Donc, elle a, tu sais, vérifié ça avec ses propres enfants pour être certaine. Mais c'est pas, c'est pas comme épidémique, là.
Non, effectivement.
Puis, c'est ça. Sauf que mes oncles ont pas tous le même... j'ai l'impression que la dégénérescence n'est pas faite au même rythme pour tout le monde. Je pense qu'il y a de ses frères qui ont perdu la vue plus vite, plus jeune, d'autres que ça a duré un peu plus... En tout cas, mon oncle François, qui est le plus jeune des quatre enfants, est encore super... super autonome, super peut-être qu'il s'est développé. T'sais, c'est ça aussi, c'est qu'on ne sait pas, est-ce que ça vient avec... est-ce que plus tu te développes d'outils, est-ce que plus tu essayes de faire des choses malgré ton handicap, est-ce que dans le fond, ça te garde plus... Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que, tu sais, si on le sait comme pas, là?
D'ailleurs, science, excuse-moi.
Non, non, j'allais dire d'ailleurs ton oncle François.
Oui, que vous connaissez tous.
Mais il travaille ici.
Oui.
Non, mais j'allais dire, chaque personne qui a une déficience visuelle, moi, quand je commençais à travailler, je pensais que c'était pareil. Tout le monde qui avait une déficience visuelle, telle maladie, c'était la même chose. Mais
c'est ça.
Il y a vraiment des variantes d'une personne à l'autre. C'est incroyable, oui.
Oui, mais c'est ça, j'ai de la misère avec ce mot.
Dégénérescence.
C'est ça.
Et non, dégénération. Une très bonne chanson de mes aïeux.
Oui, effectivement. Varie d'une personne à l'autre, selon la déficience visuelle aussi.
Oui, exact.
Alors, on va aller une courte pause. Ouais. On va reprendre un peu notre souffle et puis on va continuer notre conversation avec Marie-Christine et Virginie et toi, ma belle Bianca.
À tout de suite.
À tantôt.
Vous écoutez Y voir clair avec Nathalie Barrette et Bianca Lucier d'Alpé.
On discutait un petit peu hors onde pendant la pause et Marie-Christine, je t'entendais dire moi, j'ai eu certaines de l'aide quand même de l'extérieur, tu sais, pour m'adapter, puis il y a des choses auxquelles j'aurais pas pensé par moi-même. Quand tu disais ça, tu faisais référence à quoi? Quel type d'aide t'as eu qui t'a aidé avec ta perte de vision?
Oh mon Dieu, mais tellement, puis je demande tout le temps de l'aide, là. Moi, je trouve ça le fun parce que ça encourage justement à faire des nouvelles rencontres. Puis, l'aide qui m'a beaucoup aidée, bien, c'est sûr d'avoir été mis en contact avec la Fondation des aveugles du Québec. Ça a sauvé ma vie, là, parce qu'ils m'ont aidée à me loger. Ça a été comme une grosse étape dans ma réadaptation. Puis, l'Institut Nazareth et Louis Braille, j'ai eu beaucoup de réadaptations. J'en ai encore parce que, tu sais, il y a des nouveaux endroits que j'ai envie d'apprendre à me déplacer. Donc, l'orientation en mobilité, ça, c'était très, très aidant pour moi. Puis, ça l'est encore aujourd'hui. Mais, mon Dieu, c'est partout, là. J'ai comme je dis oui aux ressources puis à l'aide. Le bon pilote aussi, qui m'a tellement aidée.
Qu'est-ce que c'est le bon pilote? Je ne connais pas, moi.
On va faire une plug au bon pilote.
Oui, faisons une plug.
Je cherche des commanditaires aussi. Là.
Ah, bon.
C'est un service d'accompagnement pour les personnes non-voyantes. Mm-hmm. Pour nos rendez-vous médicaux, admettons, parce que quand tu vas à l'hôpital, tu sais à quelle heure c'est ton rendez-vous, mais tu ne sais jamais à quelle heure tu sors.
Oui.
Fait que c'est le fun comme d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter qui va venir te rechercher, parce que le transport adapté aussi, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Fait que...
Est-ce qu'ils font ça, excuse-moi de t'interrompre, ouais. Est-ce qu'ils font seulement la portion transport ou ils peuvent t'accompagner jusqu'à l'intérieur? Ouais.
Mm-hmm. Okay. Ouais. Mm-hmm. Le RAM aussi, on a des bénévoles. Mm-hmm. Le RAM, c'est le regroupement des aveugles et handicapés. Il faut que tu m'aides, là.
Du Montréal métropolitain, ouais. Je pense, oui.
Eux aussi, ils m'aident beaucoup. J'appelle des bénévoles, des fois, pour aller magasiner, parce que j'aime ça, aller magasiner.
Alors, tu vois, même si tu es bien entouré, tu fais appel à des organismes, des associations pour t'aider, alors qu'il y a bien des gens qui n'osent pas demander de l'aide.
Mais c'est parce qu'ils les connaissent pas. C'est qu'on vit pas comme dans une société où l'information est facile à obtenir, tu sais. Mm-hmm. Donc, on a un besoin, c'est clair qu'il y a de l'aide pour ce besoin-là, tu sais. Il faut juste comme être connecté à nos besoins, tu sais.
Puis toi, qui t'as dirigé vers ces ressources-là dont tu parles?
Bien, j'ai eu une travailleuse sociale au départ, là, avec l'Institut Nazareth et Louis Braille. J'ai l'impression de te regarder, mais quand je regarde dans ta direction,
tu la regardes,
pas
l'Institut.
Tu la regardes.
Non, mais c'est la travailleuse sociale qui m'a beaucoup aidée, puis... Comme j'ai dit, la Fondation des aveugles du Québec organise souvent... On a une belle salle communautaire, puis on a des cafés-rencontres. Donc, juste pouvoir échanger avec la communauté des personnes handicapées visuelles, bien, ça aide aussi beaucoup à comme avoir des ressources. Tu sais.
Ah, écoute, je vais te donner mon nom pour aller magasiner avec toi.
Ah oui!
Ah, wow.
Ben, c'est le fun quand tu dis on magasine entre filles.
Ben,
puis,
ben oui, j'adore ça.
Ah, je vais te donner mon nom pour être bénévole.
Ben, on y va tellement. Mais ça, c'est clair que je vais m'en rappeler. J'ai ton numéro de téléphone en plus.
Oui, garde ça précieusement. J'adore magasiner. Mais c'est ça, donc demander de l'aide, c'est important. Mais Bianca, toi, tu aides et tu accompagnes, comme je disais tantôt en début d'émission, t'aides des gens. Des parents, mais est-ce que des accompagnements pour aider les parents? Oui. Si, exemple, c'est ça, c'est une déficience visuelle, mais que ton enfant n'a pas ou que ton enfant en a, peu importe, est-ce qu'il y a des aides spécifiques, des gens qui aident ces parents-là?
Oui, oui, puis en fait, c'est qu'on y va tout le temps selon les difficultés, puis, tu sais, que ce soit à l'Institut ou dans les autres centres de réadaptation, l'idée, c'est qu'on y va avec ce que la personne trouve difficile, comme c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les situations d'handicap, les petits bugs, les choses qui marchent moins bien, puis on tient compte de la personne. Fait que si, par exemple, la difficulté, c'est, je le sais pas, moi, changer les couches, ben ça pourrait être tel type de professionnel qui va... Ça serait pas moi, d'ailleurs.
Non. Moi, je pense que je viens de penser à Dany avec son anecdote. Anecdote de couche tantôt.
Ah oui.
C'est vrai. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé à ça. Ouais. Mais bref, ça serait, par exemple, la technicienne en éducation spécialisée qui pourrait donner des stratégies au niveau des activités de la vie quotidienne. Moi, je suis plutôt spécialisée au niveau de l'informatique. Fait que moi, j'ai déjà aidé des parents à trouver des solutions pour les devoirs, justement, comment on pourrait donner l'accès aux devoirs, quelles technologies on peut utiliser. Fait que dans le fond, c'est que les solutions vont être selon le problème rencontré. Mais oui, il y a des services pour les parents, puis il y a des façons de s'y adapter. Puis je pense que ce qui est important en dehors de l'Institut, un peu comme tu le mentionnes, Marie-Christine, c'est d'être connecté sur la communauté puis les autres personnes, parce que j'ai l'impression que d'échanger... Je ne sais pas d'ailleurs, Marie-Christine, si tu as eu cette opportunité-là de discuter avec d'autres mamans qui ont une déficience visuelle. Est-ce que tu as échangé des trucs avec d'autres parents?
Ben oui, quand même. J'ai échangé, mais je sais qu'il y a l'ACPEV.
Oui.
L'association des...
Je vais pas bien dire. Mon travail aujourd'hui, c'est de donner les acronymes.
On va pas dire les acronymes, Bianca.
Vas-y, Bianca.
Excusez-moi, un petit fourré. L'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels.
Merci, Bianca.
Voilà. Bienvenue.
Puis ça, ils font tellement des beaux événements. Moi, j'ai connu ça tard, mais ça fait... Oh mon Dieu, c'est tellement nourrissant pour le cœur. Tu te rends compte que c'est ça, t'es pas tout seul. Parce que la pire chose, c'est de se sentir seul, pense. Ça détruit le psyché, ça détruit l'estime.
Je dirais qu'en général, dans la vie, quand tu vis quelque chose de difficile, c'est bien de se rassembler, de se retrouver et de parler avec des gens qui vivent sensiblement la même chose que nous. C'est de se retrouver. Fait qu'en tant que maman, ça doit être tellement... enrichissant de rencontrer ces autres femmes-là, ces autres mamans-là?
Oui, je pense que oui, mais aussi, je sais pas, c'est parce qu'il y a quelque chose avec le handicap visuel, comme, admettons, la mère de Virginie, elle dit qu'elle est plongée dans le noir. Tu sais, c'est quelque chose de très difficile à imaginer, je pense, parce que, tu sais, même quand on vit une situation difficile, une dépression, admettons, mais quand ta vision, c'est 80 % de l'information que ton cerveau y reçoit. Là. Mm-hmm. Fait que quand tu n'as plus accès à ça, là, avant que les autres sens prennent le relais, là, c'est long, là, s'adapter à ça. Fait que t'es comme tout le temps avec toi-même à broyer du noir, tu sais.
Au sens propre et figuré, hein?
Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de très tricky là-dedans. Puis justement, il faut briser cet isolement-là, tu sais. C'est comme un double isolement. La vue puis ta personne, tu sais.
Est-ce que toi, ta maman, il y a quelque chose... Comment je vais dire ça? Parce qu'on a parlé de plein de ressources et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire à ta mère ou aider ta mère dans quelque chose en particulier ou déjà avec son conjoint, dans sa vie? Est-ce qu'elle a toutes les ressources nécessaires?
Bien, comme je disais, je pense qu'on continue de s'adapter, en fait. Là, c'est ça qui est étrange. C'est que des fois, moi, je ressens de la culpabilité de comment ça se fait qu'on n'est pas super rodé, genre, comment ça se fait, tu sais, puisqu'elle vit avec ça depuis longtemps, comment ça se fait qu'on n'a pas... Mais je veux dire, on l'est jusqu'à une certaine mesure, mais des fois, je suis comme... On a encore des défis, il y a encore des choses que j'apprends, puis d'un côté, c'est beau, c'est le fun de continuer d'apprendre puis de s'intéresser, mais des fois, c'est ça, je me dis, coudonc, il y a comme des dossiers qui sont pas... réglé depuis longtemps, est-ce que c'est parce qu'on a mal communiqué là-dessus? Est-ce que c'est parce que moi, j'ai pas offert assez d'aide? Est-ce que, tu sais, des fois, mais elle ne me fait aucun reproche, évidemment. Non, c'est moi qui me sens comme ça. Mais fait que oui, il y a plein de choses avec lesquelles j'aimerais l'aider, mais moi non plus, je ne sais pas comment.
Mais je te dirais qu'en général, on ne sait pas comment. C'est vraiment niaiseux ce que je veux dire, mais quand on s'est rencontrés, Bianca et moi, on ne se connaissait pas du tout. Puis les premières fois où on a déjeuné ensemble, on déjeunait au Biblos, petite plug, parce qu'on aime ça aller déjeuner là. Puis là, je me sentais mal à l'aise parce que sais pas. Mais en fait, je sais pas que. En fait, on ne sait pas comment aider.
Ouais.
Puis on ne veut pas non plus brusquer, on ne veut pas non plus blesser les gens. On veut pas. Tu sais, je disais à Bianca, quand je vois une personne non-voyante ou malvoyante, peu importe, dans la rue, est-ce que je devrais offrir mon aide? Écoute, c'est quelqu'un que je connais pas.
Ouais.
Mais ça doit être la même chose avec un proche. Mais tu sais pas trop comment.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans la rue, on n'arrête pas de t'interrompre, vas-y.
Ben non, j'ai rien dit encore.
Non, mais t'as levé la main.
Tu veux parler? Bien, je dirais la première chose, c'est juste de demander. Tu sais, c'est très bien ce que vous voulez. Puis mettez pas, comment je peux dire, les situations d'handicap sont inévitables. Ça se peut pas avoir une déficience visuelle puis que tout est réglé puis c'est la fin de l'histoire.
C'est ça.
Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Non, la déficience visuelle, c'est toujours un défi. Puis je pense que la plupart des personnes qui ont une déficience visuelle, on le sait. et on le sait. Puis c'est pas aux personnes qui ont une bonne vision de porter ce poids-là. C'est un poids de la vie qui est un petit peu inévitable. Mais je pense que juste le fait d'offrir de l'aide, est-ce que je peux t'aider? Puis la personne qui a une déficience visuelle, si elle en a besoin, elle va la prendre. Si elle n'en a pas besoin, elle va dire non, merci. Mais il n'y a pas à avoir de malaise. Je pense que quand il y en a un, c'est qu'on pose la question. Puis souvent, ça va finir par se régler. Personne va dire « Non, non, merci, c'est bon, je connais le chemin. Ouais, OK, je vais prendre ton bras. » Ou,
c'est ça.
C'est d'ouvrir un espace, je pense, où n'importe quelle réponse pourrait être accueillie. Tu sais, en tant que personne qui a une déficience visuelle, moi, quand on me dit « Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? » Je veux dire, c'est merveilleux parce que je sens que je peux répondre
oui ou non,
ce que je veux.
Ouais.
C'est ça, exact. Oui. Oui, je sais pas. Ouais.
Mais puis, tu sais, par rapport, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, je le sais, mais tu sais, par rapport à l'inconnu dans la rue dont tu viens de parler, Nathalie, c'est aussi. Je pense que nous, de notre point de vue, ça se voit, quelqu'un qui est en train de faire ses petites affaires puis qui est bien correct, puis quelqu'un qui est arrêté, regarde autour de... En fait, tourne la tête, tu sais, qui cherche comme une
aide. Qui a l'air perdu, là.
C'est ça, quelqu'un qui a l'air perdu versus quelqu'un qui... Tu sais, fait que moi, quand je vois quelqu'un, mettons, avec une canne blanche, d'immobile sur un coin de rue alors qu'il pourrait traverser parce que c'est vert, je lui demande, est-ce que vous avez besoin d'aide pour traverser? Mais s'il est déjà en train de traverser puis qu'il fait ses affaires, bien...
Le poignet vers le bras.
Non, non, surtout pas le toucher sans l'avertir. Mais bref, en tout cas, après ça, je pense que c'est toujours bienvenu de poser la question. Mais je pense qu'on le voit quand même, quelqu'un qui sans dire qu'il est en détresse, mais tu sais, quelqu'un qui a un peu plus besoin d'assistance que quelqu'un.
Puis des fois aussi, comme dans les tâches ménagères, est-ce que ça peut être tu sais, ta maman, si tu lui offres de l'aide,
ouais.
est-ce qu'elle peut réagir « non, je suis capable » ou
Ben, elle va toujours me dire qu'elle est capable, c'est bien ça. Sûr. Ouais. Mais, ça, maintenant, j'y demande même plus. Je le fais pour
tu
elle.
Le fais, hein?
Non, mais c'est parce qu'elle est rendue là, c'est juste se rendre service, là, comme...
Ben oui.
T'sais, comme quand je vais chez mes amis, je laisse ça à mon assiette, là, dans le sens que c'est, là, c'est pareil, mais moi, souvent, en tant qu'être là, je vais comme faire toute la vaisselle, puis ma mère me dit « Non, laisse faire ça, je vais le faire quand tu vas être partie », puis je le sais qu'elle va le faire, elle le fait tous les soirs de sa vie, mais ben là, moi, je suis là, puis moi, mes deux yeux fonctionnent bien, puis ça va aller plus vite, puis on parle pendant ce temps-là, puis c'est plus simple pour toi, puis ça me fait plaisir de te rendre ce service. C'est vraiment la moindre des choses.
Ouais,
là, j'aimerais ça pouvoir faire plus. Mais c'est ça.
Elle le veut peut-être même pas. Hein?
Ben, elle est rodée. Elle, elle a son petit quotidien. Ben oui. Elle a ses trucs dans la maison. Ben oui. elle se débrouille. Là, elle peut passer du temps seule à la maison. Elle s'arrange. T'sais.
J'ai une question que je me pose, Virginie.
Ouais.
Quand tu étais adolescente, par exemple, ou plus même enfant, puis que sa vision commençait à diminuer,
ouais.
quand tu avais des amis à l'école, tout ça, comment t'abordais avec eux la déficience visuelle de ta mère? Est-ce que c'était un sujet dont tu discutais parfois?
Ben oui, dans le sens que c'était fallait que je prévienne, là, dans le sens ouais. que ne serait-ce que juste pour pas que mes amis, entre guillemets, trouvent ma mère bizarre. Là, ouais. Dans le sens qu'à partir du moment où tu sais que la madame ne voit pas bien, il y a bien des affaires qu'on trouve moins étranges là, dans son comportement. Fait que oui, puis tu sais, je veux dire, ça arrivait, j'avais pas le choix de le dire à mes amis parce que ça arrivait que, mettons... suffisait que je sois avec une amie qui me ressemblait, qui était de la même grandeur que moi, avec les cheveux de la même couleur que moi. Puis là, ma mère, des fois, la regardait, elle, en pensant que s'adressait à moi. Puis là, je disais, oh non, moi, je suis l'autre petite fille. Mais tu sais, ça, c'est pas grave. C'est à la limite, c'est cocasse, puis c'est pas...
Oui.
On s'en fout. Mais oui, c'est sûr. Moi, j'en parlais. Dès que j'invitais quelqu'un chez moi, fallait que oui, c'est sûr que je lui disais que ma mère...
Puis est-ce que tu as dû réfléchir à comment je l'explique, à comment...
Non, pas vraiment. Non. Moi, pour moi, c'est pas, évidemment, c'est pas une honte. Hein. Ouais, c'est vraiment juste la vie. Puis c'est triste, mais surtout, on vit avec. Puis on allège le plus possible... cet aspect-là de sa vie. Fait que...
C'est intéressant parce que les gens qui ont une déficience visuelle, on doit apprendre ça. Comment j'explique ma déficience visuelle, puis à quel moment je le dis, comment je le dis. Mais tu étais un peu dans la même situation. Mais pour toi, peut-être qu'il y avait moins la charge émotive parce que pour la plupart des personnes qui ont une déficience visuelle, quand c'est invisible, de commencer à le nommer, c'est une grosse étape.
Je me souviens. Oui. Puis moi, j'ai quand même observé un changement chez ma mère de comment elle le disait avant versus comment elle le dit maintenant. Je pense que ça sort plus facilement maintenant. Puis c'est normal, ça fait partie de toutes ces adaptations dont on parle depuis tantôt. Mais...
Oui. Et toi, Marie-Christine, par rapport à Liam, ton fils, comment tu lui... parce que bon, il a 8 ans, 7 ans. Il est en âge de comprendre. Comment tu lui as annoncé que tu étais non-voyante?
Ça s'est fait naturellement. Là, il y avait 2 ans, il s'en rappelle pas que je voyais. Ça. Fait que il trouve ça bizarre. Hein, tu conduisais? La misère à croire à ça. Mais tu sais, je sais pas, quand vers, je sais pas, 4 ans peut-être, il a comme compris que il a commencé aussi à m'aider à éviter des obstacles quand on marchait sur la rue. Tu sais, mettons, il me tenait la main, puis là, à place que ce soit ma canne qui détecte, mettons, un bac de récupération, c'est lui qui me tassait, puis il me le disait, tu sais. À partir de là, je pense qu'il s'en est rendu compte.
Il faisait ça à peu près?
Je pense,
OK.
Puis je pense aussi, avec ses amis, tu sais, il va le dire des fois, comme... Ah oui, mes amis me demandent pourquoi t'as un bâton.
Un bâton.
Ta mère, elle se promène avec un bâton.
Pourquoi qu'elle a des lunettes fumées en dedans tout le temps?
Ouais, c'est ça. Puis, mais, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé là, de faire un câlin à Éloi, là, à la place de
Ben oui,
c'est comme. Non, ça, c'est Loralie.
C'est drôle parce que moi qui est de l'autre côté, qui était un enfant, quand j'étais jeune avec une déficience visuelle, je me suis déjà trompée de parents. Ben oui.
C'est drôle.
Mais les amis de Liam, est-ce qu'il y en a des amis qui ont des déficiences visuelles?
Non.
Ou est dans un univers où il n'y a pas un enfant qui a une déficience visuelle?
Oui, non, il va à l'école régulière. Mais wow. C'est sûr, on vit dans un monde de voyants. Fait que l'idée, c'est de s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Mais non, il fait ça super bien. Puis il y a vraiment une bonne école, super ouverte d'esprit. Puis ça se fait bien, mais en même temps, tu sais, Je sais pas c'est quoi le, c'est le ce que le futur nous réserve. Là. Des fois, c'est sûr, ça m'angoisse un peu de me dire comment, tu sais, en grandissant, les enfants, ils vont réagir parce que tu veux pas être différent quand t'es jeune.
Mmh. Ouais. Mmh.
Mais bon, je sais que tu sais qu'il a commencé à se faire jouer des petits tours là, des fois là, ses amis ils disent ah ça c'est de la limonade puis il donne un V8
là, bon, ça au moins, c'est pas trop dangereux
ça a commencé.
Est-ce qu'il te joue des tours à toi?
Ben oui, tout
qu'est-ce
le temps.
Qui... c'est comme quoi?
Ben comme j'ai dit tantôt, il va me cacher. Ouais. Mais là ça c'est fini là, tu sais, il a compris que c'est pas le fun de faire ça. Mais quand il était plus petit, c'était les biscuits qui partaient beaucoup trop vite, t'sais, j'ai juste deux. Là, je me dis, ah, la boîte est vide. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Mais
est-ce que toi, Virginie, oui. Quand t'étais enfant, as-tu déjà comme fait des petites choses comme ça, des petits oh, maman, elle va pas voir, tu sais, j'ai un tatou, je vais me faire tatouer.
Ah mon Dieu, non, j'ai pas de tatou. J'ai pas de tatou. Non, pas vraiment. En tout cas, pas que je me souvienne. Tu sais, je pense que je cachais des choses à mes parents comme tous les enfants, ados. Mais pas spécifiquement parce que ma mère voyait pas, tu sais, je pense que j'ai déjà, ben, oui, tu sais, en fait, c'est drôle parce que des fois, dans c'est plus au maintenant, des fois, dans les réunions de famille, souper de famille, moi, je prends beaucoup de photos, vidéos de mes neveux, nièces, tout ça, puis de plus en plus, je me dis, ah, j'ai aussi envie d'avoir des souvenirs de mes parents, tu sais. Fait que des fois, je filme, mettons, mes parents, puis là, mon père, lui, il voit très bien. Puis des fois, j'oublie, je me dis, mais ma mère, elle sait pas. Puis tu sais, je mets ça nulle part, là, ça, sur aucun réseau. C'est vraiment des souvenirs très personnels, juste comme... Puis je suis comme, ah, c'est vrai. Tu sais, comme des fois, j'y pense pas, mais elle est pas consciente que je suis en train de...
Ah, fait tu que, lui dis pas.
Ben, je lui dis. Mais ah, tu sais, ouais. Ça change rien, mais c'est
parce
ça.
Parce qu'on aime bien le savoir.
Mais oui,
c'est filmé.
Mais c'est parce qu'on s'en rend même pas compte. C'est juste que tu tournes vers la personne, puis ouais. Elle a son téléphone levé, puis là, ton cerveau comprend que c'est ça qui se passe, puis ça n'a pas besoin d'un grand préambule, là, mais c'est juste qu'elle, c'est sûr qu'il faut que je fasse comme je suis en train de récolter des souvenirs. Donc, sache-le.
Puis avant, elle aurait remarqué ça si une caméra était dedans.
Ben oui, ben oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, en tant que maman, que tu aimerais dire aux autres mamans qui ont une déficience visuelle? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre? Une connaissance, un truc ou de ton quotidien? Je te pose. Hein?
Mais, tu sais, moi, c'est la plus belle expérience de ma vie à être mère. Là, c'était mon plus grand rêve. Fait que je veux dire, je pense qu'avec la vue ou sans la vue, je veux dire, c'est un bonheur, c'est une joie à chaque jour de pouvoir guider un être humain comme dans la vie. Là. Fait que je veux dire, tout le monde fait des erreurs, là, voyant, pas voyant, tu sais. Puis de pas avoir peur de se tromper. Je pense que c'est ça le meilleur conseil. Parce qu'on a tellement toujours peur de faire des erreurs. On fait des erreurs tout le temps, avec ou sans la vue. Ça n'a pas rapport.
Puis quand les enfants sont plus vieux, ils nous reprochent des trucs des fois. On fait « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Mais ou effectivement, on fait, en tant que parents, on fait des gaffes.
Ben oui.
À vue ou pas, voyant ou pas voyant.
Oui, puis tu sais, je me rappelle, Liam, quand il a intégré la garderie, tu sais... c'est arrivé qu'il y avait du Nutella dans le front, là, tu sais, puis que l'éducatrice a dit « Oh, il a mangé des toasts au Nutella! » J'ai comme « Regardez, j'ai fait mon possible. »
Ah oui, j'ai mal nettoyé.
Ben, ouais, il est arrivé comme le visage un peu sali, là.
Désolée.
Il a mangé, tu sais.
Puis toi, en tant que fille d'une maman qui a une déficience visuelle, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des femmes, des filles?
Tu sais, il y a déjà un défi entre une mère et une fille voyant, ben en tout cas, enfant-parent, là, tu sais, mais c'est comme le classique mère-fille. Tu sais, des fois, c'est un peu plus... il y a un peu plus de friction, un petit peu plus tendu. Puis j'ai une super relation avec ma mère, puis je l'aime. J'ai pas eu une grosse crise d'adolescence intense, mais on a des caractères, des fois, qui peuvent un petit peu s'accrocher. Puis ça a été long pour moi de départager ce qui est juste comme naturel de notre relation selon nos caractères, puis ce qui était comme un peu, moi, de l'impatience, je pense. Comme ado ou comme, en tout cas, jeune adulte, des fois, elle répétait des affaires en lien avec le fait qu'elle a un problème de vision. Puis là, moi, j'étais impatiente de ça. En tout cas, bref, excusez, c'était une réponse trop longue, mais oui, patience, puis s'intéresser, puis poser des questions, puis ouais.
Est-ce que... tu penses, Virginie, que ça apporte quelque chose, le fait d'avoir une mère qui a une déficience visuelle? Est-ce que tu penses que ça t'a apporté une maturité ou, je sais pas, quelque chose que t'aurais pas eu autrement ou que t'aurais pas eu l'opportunité de développer autant jeune?
Ben, je trouve pas que je l'ai développé jeune, justement. Mm-hmm. C'est ça un peu mon regret. Tu sais, je trouve que ma mère a beaucoup voulu. Elle a beaucoup de fierté, puis elle a jamais voulu renverser les rôles avec nous. Elle a voulu rester comme la mère. Donc, elle voulait, oui, qu'on prenne soin d'elle, mais jusqu'à une certaine mesure, quand même. Fait que ça fait que longtemps, dans ma tête, ma mère, elle se débrouillait, ce qui était vrai. Mais donc, je pense que ça fait que ça a été long un petit peu avant que je me dise que je pouvais peut-être lui rendre la vie plus facile, plus simple. C'est un mélange, je pense, entre elle, ce qu'elle dégageait puis ce qu'elle nommait, puis moi, puis nos caractères, un peu comme je disais tantôt. Mm-hmm. Mais fait que là, maintenant, depuis quelques années, je réalise plus. Puis comme je vous dis, je suis plus patiente. Puis je me mets plus dans sa peau. J'arrive plus à me mettre dans sa peau, sans savoir exactement ce que c'est, évidemment. Mais mm-hmm. j'aurais aimé faire ça plus jeune, je pense. Mm. Y penser plutôt.
Ouais. Ah, écoute, je voudrais qu'on termine avec un petit segment sympathique. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez me donner deux mots, deux choses. Donc, les deux choses que... Les deux mots qui décrivent le mieux ta relation avec ta maman.
Tendresse et écoute.
Et toi, Marie-Christine, avec ton fils?
Les deux mots...
Qui décrivent mieux ta relation avec Liam.
J'aurais le goût de dire... humour.
Ah, oui, hein?
Et amour.
Oh, puis ça se ressemble.
Ouais. Je vais te poser la question, oui? Toi aussi.
Oh, je m'attendais pas à ça.
Non, là. Relation avec tes parents?
Oui, deux mots qui décriraient bien.
Ouais.
Profiter de la vie. Mm-hmm. Puis, rire, je pense.
OK. Oui. Ouais. OK, l'humour. Alors, deux choses que tu admires profondément chez ta mère.
Sa résilience. Mm-hmm. Et sa curiosité. C'est une femme qui s'intéresse à beaucoup de choses. Elle écoute les nouvelles tout le temps. Elle est curieuse, oui. Intéressée à apprendre toujours.
Alors, toi, Marie-Christine? Est-ce que tu admires de Liam?
Oui, bien, ça va dans le même sens que Virginie. Moi aussi, c'est le courage de mon fils parce qu'il a vécu beaucoup de choses depuis sa jeune vie. Mm-hmm. puis son intelligence aussi. Mm-hmm. C'est un petit gars tellement curieux. Oh. Il est fascinant.
Oh, c'est bien chouette. Tu l'as dit tantôt, je pense, par exemple, mais deux leçons importantes que ta mère t'a transmises, on l'a-tu dit?
Bien, en lien avec son handicap visuel?
Oui, ou ça peut être juste une?
Bien... je sais pas.
Développer ta patience aussi.
Ouais, mais ça, c'est plus moi qui ai découvert ça avec moi-même. C'est pas tellement elle qui m'a, mettons, dit « sois plus patiente », mais...
Mais quand tu l'observais, mettons, est-ce qu'il y a des choses qu'en la regardant faire, les choses en la voyant se débrouiller, est-ce qu'il y a des choses que ça t'a appris?
Oui, ben je dirais...
Sûrement la résilience encore.
Ben oui, hein? C'est ça, c'est que ça rejoint. C'est parce que j'essaie de trouver d'autres mots que résilience.
On
l'aime,
mot résilience.
C'est parce qu'il englobe tellement de choses.
Ouais, ouais. Fait qu'un jour dans la vie, si tu as à vivre une épreuve, tu vas repenser à tout ce que ta mère a vécu. Fait que ce mot-là est tellement important.
Ouais.
La résilience, il faut tous les jours, on est toujours résilient par rapport à une situation, une dépression, un deuil. Il faut continuer à avancer dans la vie.
C'est
là.
Ça, oui.
Et toi, par hasard, Marie-Christine, aurais-tu un mot à ajouter à ça par rapport à une leçon importante que Liam, malgré son jeune âge, t'aurait transmis?
Bien, c'est que la vie, elle vaut la peine d'être vécue, hein?
Oui.
Puis que, je veux dire, tu sais, le bonheur, ça vient aussi en faisant l'expérience du malheur, en quelque sorte, là, tu sais.
Effectivement.
Fait que c'est ça, un peu.
Avant de se quitter, je voudrais qu'on parle rapidement de ton livre. Parce que
oui!
Toi, écoute, Ma vie dans le noir. Mm-hmm. Parle-nous brièvement de ce que c'est.
Bien, en fait, c'est un témoignage de ce que j'ai vécu. Donc,
c'est une biographie qui a été publiée en 2022.
Mm-hmm. Donc, c'est ça. Puis comment le livre est composé, là, on me suit, tu sais, c'est une journée dans la peau d'une non-voyante. Donc, on comprend mieux comment ça se passe au quotidien avec Liam dans ma routine, puis comment j'en suis venue à perdre la vue, dans le fond.
Mm-hmm.
Puis, donc, c'est ça, c'est pour les curieux de comment ça peut se passer une vie quand on ne voit pas. C'est un peu ça que j'avais envie de livrer pour moi. Ça m'a fait du bien de publier ce livre-là, mais aussi c'était comme pour expliquer à mon fils un peu ce qui était arrivé. Je voulais qu'il sache, puis... les gens, justement, ils sont curieux, ils veulent savoir, puis c'est un peu une façon de sensibiliser les gens, de donner de l'information, parce que ben c'est oui. vrai que les gens sont maladroits, ils veulent aider, ils savent pas comment faire, donc mm-hmm. C'est la raison de ce livre.
Donc, c'est Ma vie dans le noir, qui est publié aux éditions Saint-Jean, c'est publié depuis 2022. Mm-hmm. Je suggère aux gens de l'acheter, et tu es très active sur tes réseaux
Merci
sociaux.
Merci beaucoup. Ben, je sais.
Ouais, ouais. En tout cas, moi, je suggère aux gens, je suis allée flirter sur ton site Internet.
Donc, ah oui.
Marie-Christine Ricignolo.
.com.
Donc, tu as des super photos de toi, puis tu es conférencière aussi. Les gens peuvent aller. Ouais, les gens peuvent aller réserver tes conférences.
Oui, exactement.
Donc, dans tes conférences, tu parles de ta vie, de ta déficience visuelle, de ta résilience et tout ça.
Oui, puis on peut me suivre aussi sur Instagram, puis Facebook, c'est un peu rendu.
On y va moins, mais regarde, ça existe pareil.
Ça, c'est la preuve que je suis vieille.
Mais non.
C'est pas vieille, voyons donc. Hein?
Non, non, c'est, tu sais, le monde...
Suivez-nous sur Facebook.
Alors, je vous remercie beaucoup, Virginie Rangé. Merci beaucoup. Rangé, bon, regarde, faut pas que je prie ton deuxième nom. Marie-Christine Ricignolo, merci beaucoup.
Merci.
Bianca,
merci.
C'était super le fun. Ouais. Encore un beau show. Puis on se retrouve la semaine prochaine où on va parler d'activités sportives et les déficiences visuelles. Alors, merci à vous.
Bonne semaine.
Salut, bonne semaine. Merci beaucoup.